Bonjour à tous, bienvenue dans le Libre Journal du Cinéma, votre émission mensuelle consacrée au 7e art. Alors qu'est-ce que le panache? Vous avez 5 heures. Selon le dictionnaire, il s'agit d'un faisceau de plumes flottantes qui servait à orner une coiffure, un dais, un casque. Mais ici, le sens propre ne nous intéresse guère, parlons plutôt du sens figuré, c'est-à-dire une allure spectaculaire, du brio. Souvent attaché à un esprit français, frondeur, se gargarisant de combats essentiels car inutiles, le panache est un formidable moteur de cinéma. Assurément, s'il est un réalisateur qui a su par ses films porter à l'écran ce mot, c'est bien Jean-Paul Rapneau. Durant cette heure et demie, nous allons retracer la filmographie d'un des réalisateurs les plus virevoltants du cinéma français, de La Vie de Château jusqu'à Belle Famille. Jean-Paul Rapneau, c'est 8 films en 60 ans de carrière. Une carrière que certaines personnes obnubilées par le rendement jugeraient peu prolixe, mais qui révèle l'une des caractéristiques les plus profondes de son œuvre, paradoxale en apparence. La vitesse prend du temps. Car si dans le cinéma de Rapneau tout va à 200 à l'heure, l'homme pour construire ses intrigues échevelées est d'une rigueur bénédictine. Le moindre détail de mise en scène est sous-pesé, rien n'est laissé au hasard. Une partition finement composée à la pulsation fiévreuse. Ce qui frappe dans la mise en scène de Jean-Paul, c'est sa musicalité, un sens du rythme de la comédie qu'il maîtrise parfaitement comme un chef d'orchestre. Un compliment très élogieux de Catherine Deneuve que nous retrouvons dans l'avant-propos de l'autobiographie de Jean-Paul Rapneau, sorti en octobre dernier, Vive Allure, écrit avec Ketevan Dafri-Chehoui, paru chez Grasset. Alors, pour évoquer cette illustre figure du cinéma français, j'accueille deux invités. Marie-Noëlle Tranchant, bonjour.
Bonjour.
Alors Marie-Noëlle, vous êtes ancienne critique et journaliste au Figaro, vous officiez désormais sur Radio Notre-Dame, et vous en avez parlé, vous connaissez bien Jean-Paul Rapneau. Dominique Borde, bonjour.
Bonjour.
Là aussi, vous êtes un ancien journaliste et critique au Figaro.
Oui.
Voilà. Et vous aussi, vous officiez aussi.
C'est Radio Notre-Dame. D'une certaine manière.
Oui, vous êtes un tandem inséparable. Ouais. Et vous êtes l'auteur d'un livre référent sur le cinéma français, Le roman du cinéma français, paru en 2010 aux éditions Du Rocher.
Mais je ne parlais pas de Rapneau, je crois, dedans. Ou je l'ai peut-être cité, mais je n'ai pas du tout consacré un chapitre à Rapneau.
Eh bien, je crois que c'est un oubli, vous allez devoir en ressortir une version améliorée.
Ce n'est pas un oubli, c'était une sélection.
Vous nous expliquerez pourquoi. Alors, mais avant de monter à cheval, de se provoquer en duel, de courir par monts et par veaux, de s'exiler sur une île déserte en compagnie des films de Jean-Paul Rapneau, nous allons parler de deux films sortis dernièrement en salle, avec le film du mois.
On a choisi un sujet difficile et on l'a traité honnêtement, avec foi, sans concession. Et je crois que ça peut faire un grand film.
Alors, Marie-Noëlle, Dominique, nous allons parler de deux, mais voire même de trois films, d'ailleurs. Et alors, le premier film dont nous allons parler, c'est le dernier Gus Van Sant, La corde au cou, qui est sorti le 18 avril dernier. Alors, qui raconte, en fait, ça se passe à Indianapolis, en 77. Tony Kéritis, un homme ruiné par un prêt hypothécaire qu'il estime frauduleux, kidnappe le fils du directeur de la société de crédit responsable de cette situation. Il attache un fusil à canon scié au cou de son otage, la gâchette reliée à la sienne propre. Si Tony tombe, l'otage meurt. Alors, je vais commencer par vous, Marie-Noëlle. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce dernier Gus Van Sant qu'on n'avait pas vu à l'écran depuis quelques années?
Oui, et d'ailleurs, j'ai vu que la critique, certaines critiques, le prenait de très haut, disant qu'il y avait des réflexions extrêmement compliquées sur son parcours, qu'il se prenait au sérieux, qu'il avait échoué, qu'il maintenant essayait de se rattraper. Je ne sais pas. Beaucoup de complications pour un film qui me paraît simple et dont j'ai apprécié la simplicité, justement. Ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas... D'une certaine façon, ça ne renouvelle pas le cinéma, c'est certain. Mais c'est plutôt un certain classique du cinéma américain, au sens où le petit, le seul, le pauvre, qui se dresse contre la puissance du capitalisme américain, on le retrouve...
C'est un schéma narratif que l'on retrouve dans...
Oui, et là, il est respecté d'une façon assez plaisante, assez superficielle. Ce n'est pas un film qui creuse les choses. Mais il y a ce jeune type frustré et choqué d'avoir été méprisé, écrasé, injustement. Donc, il y a un sens une revendication à la fois de justice et de... considération personnelle. Et il se trouve face à Alors, le prototype du grand capitalisme, formidablement joué par Pacino, on ne le voit pas énormément. Mais enfin, quand on se retrouve face à Al Pacino, dans cette posture de l'homme assis sur son argent, et pour qui l'argent peut tout, de toute façon. Donc, on peut l'attaquer,
oui, lui enlever
son
rien
fils,
à faire,
hein. Même. Oui. Mais rien, aucune importance. Cette désinvolture arrogante, ça, c'est quand même une posture intéressante. Et donc, face à ce petit simple qui est jeune, en plus, parce que c'est une chose qu'on retrouvera dans le film de Toledano et c'est aussi un film sur un peu une forme d'adolescence, d'immaturité,
oui, alors que
en tout cas.
Le vrai protagoniste était plus âgé, d'ailleurs, oui. Dans l'histoire.
Donc ouais. Là, il y a une forme d'adolescence, d'immaturité, d'idéalisme un peu maladroit et bêta, qui est au choix bizarre, comique ou touchant.
Oui. C'est ça, on peut le voir sous plusieurs aspects. Oui. On peut le voir de la folie, de la stupidité.
Oui, de la stupidité, pourquoi pas.
Une sorte de naïveté.
De naïveté idéaliste, enfin... Donc, c'est moi, j'ai trouvé que c'était agréable et juste.
Eh bien, je vous propose, avant que Dominique vous donniez votre avis...
Agréable, ni juste, ni agréable.
Mais justement, on va écouter juste un court extrait de la bande-annonce.
What do you hear in Indianapolis? It is Tuesday, February 8th. I'm DJ Fred Temple. I thank you for listening.
Mr. Temple, sir, you have a caller?
I have dinner in 30 minutes is what I have.
That Tony Kuritz's fella's on the line and he's asking to speak to you. The guy with the shotgun in the man's neck.
You should open with that shit, James.
Alors, Dominique, vous, je crois que votre avis est un peu plus pondéré.
Plus que nuancé.
Oui.
Oui, moi j'ai été déçu parce que c'est un fait divers, il le traite comme un fait divers, comme Elephant, hein, c'est exactement la même démarche, il raconte un fait divers, un point c'est tout.
Oui, Elephant qui a raconté la tuerie de Columbine.
Oui, c'est ça, qui était une tuerie authentique aussi. Mais tout son film n'est que factuel finalement, et ça c'est, moi ça m'a gêné, il n'y a aucune montée, il n'y a aucune dramaturgie, il n'y a aucune montée du suspense au fond.
Ça c'est vrai que vous avez raison. Moi, ce qui m'a effectivement peu choqué, c'est qu'en fait, le problème de l'histoire vraie, c'est qu'il est dans des rails, il ne peut plus en sortir.
C'est tout. Et donc, ça finit sur le véritable héros qu'on voit en noir et blanc.
Oui, exactement.
Cette histoire est vraie, mais maintenant, c'est devenu un tel lieu commun pour les films.
Oui, d'ailleurs, c'est une sorte de tropisme.
Alors, voilà, on retombe toujours là-dedans. En fait, c'est un événement hors norme, mais qui est traité d'une façon trop simple, pour moi, trop simpliste. Voilà. Ça ne fait qu'un fait divers, pas de réel suspense. La réalité, rien que la réalité remise en scène. La caméra n'est qu'un témoin impartial d'une réalité passée, mais ça reste... Moi, j'ai comparé, alors de loin, parce que là, c'est une fiction, un après-midi de chien.
Oui, il y a eu beaucoup de cette référence.
Voilà, et qui était très...
D'ailleurs, il y avait Pacino, en plus.
Il y avait Pacino, et c'était beaucoup plus prenant, mais c'était une fiction. Mais c'était beaucoup plus prenant, on partageait vraiment l'univers et l'action des...
Oui, je trouve que c'est ce qui a manqué, c'est qu'on soit en totale empathie avec le personnage.
Oui,
donc, on aurait aimé... avoir par exemple des scènes de flashback pour comprendre comment il est arrivé là, finalement reste vraiment dans le pur déroulé de ces...
Mais surtout qu'il connaissait le fils en fait, hein. Le type qui prend en otage, il le connaissait avant déjà.
Oui c'est ça, et ça on ne voit pas...
On le sent pas tellement, mais c'est pas senti. Donc ce qui m'a plutôt déçu, on déshabille l'action finalement et les personnages pour en faire des archétypes, donc le contraire d'un polar, la simple démonstration d'un témoin, voilà. C'est un petit peu ce que ça m'a laissé comme... souvenir.
Et l'intervention médiatique, c'est la première fois. Bon, ça c'est une donnée intéressante, mais
eh bien,
c'est vrai
écoutez,
que ça reste.
Non, mais alors bon, les spectateurs, nos auditeurs se feront leur avis en allant le voir. Et c'est vrai que oui, je suis un peu de votre avis. Je n'ai pas été.
On n'est pas transporté.
J'ai pas été transporté. Le film est assez court, il dure 1h45 et je me suis quand même deux, trois moments.
Aujourd'hui, c'est court. Oui.
Ça piétine.
Je me suis un peu posé cette question de me dire bon, il va falloir un peu de rythme à un moment.
Oui.
C'est drôle d'ailleurs quand on va parler de Rapno après.
C'est ça, c'est le contraire de Rapno.
Oui, non. Alors, on va parler maintenant d'un film suivant qui alors, est sorti le même jour. Oui. Hein, c'est Juste une illusion d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Et on va commencer par écouter un extrait de la bande-annonce.
Informatisation de l'entreprise. J'écoute.
Sandrine.
Oui. Apparemment, c'est pour vous.
Allô?
Raccroche le téléphone, je te balance par la fenêtre.
Je suis désolée.
Raccroche!
Mais il me dit qu'il veut balancer par la fenêtre!
Eh ben, qui te balance?
Non, mais on habite au premier, c'est pas très haut. Oh.
Bonsoir.
Salut, maman.
Qu'est-ce que tu fais?
Un ping-pong.
Je crois qu'au niveau parfum, on est pas mal, hein?
Alors, nous sommes en 1985, bien 80, oui, c'est début des années 80.
C'est les années 80.
Voilà, alors Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de, voilà, de la classe moyenne, entre un grand frère distant et puis très fan de rock et de new wave, et des parents qui sont totalement en conflit permanent. Alors, sa famille juive d'Afrique du Nord, marquée par son histoire, tente, non sans mal, de s'adapter un peu à la crise économique, on parle de chômage. Mmh. Et voilà, et ça raconte ça, comme dans un film un petit peu... à la façon d'Éric Toledano, Olivier Nakache, un peu choral, avec des second rôles assez croustillants. Allez, là je vais inverser, je vais commencer par vous, Dominique.
Alors là, en revanche, j'ai aimé, il faut dire que Toledano et Nakache ont fait des films qui sont très marqués. Moi, ce qui me frappe toujours, ils tiennent la distance, ce qui est très rare sur les comédies françaises aujourd'hui. Le sens de la fête, pendant qu'il était assez long, ils ont tenu jusqu'au bout.
Oui, c'est vrai que c'était assez long. Ils arrivaient à...
Et alors, ils ont des acteurs, mais ils savent manier le truc. Je dois reconnaître, la plupart de leurs films ont vraiment un rythme et même une profondeur. Là, c'est plus profond que rythmé, puisqu'ils parlent de leur père. Il faut dire que leurs deux pères sont morts au moment du tournage, en plus. Ils rendent d'ailleurs hommage à leur père à la fin du film. Donc, ils parlent de leur jeunesse. Et c'est assez juste. Alors, c'est les années 80, c'est la fin des Trente Glorieuses. Le chômage est là, alors on voit Drucker à la télé, etc., on les débuts de l'ordinateur, et on partage une époque, mais ils arrivent à la faire partager par bribes, comme ça, sans trop insister, le premier amour d'un ado, il faut dire que le petit Boublil est très bon, le petit garçon qui joue l'un des deux, C'est à la fois drôle et émouvant, ils arrivent à rejoindre de loin, c'est ce que les Français essaient toujours de faire, sans toujours y arriver, un peu ce qu'ils faisaient le charme de la comédie italienne des années 60. Ils ont passé du drame au sourire, mais d'une façon très fluide. On n'y arrive pas en général. Eux, ils y arrivent, et ça c'est déjà un bon... Voilà, donc il y a de bons moments, il y a l'histoire, vous vous en souvenez, de la cassette porno qui atterrit chez le rabbin, bon ça c'est assez drôle.
Oui, là on est vraiment dans la grosse comédie. Mais c'est
les grosses ficelles, mais c'est tout un massacre.
Non, mais c'était pas péjoratif.
C'est pas péjoratif, mais ils se moquent d'eux-mêmes un petit peu là-dedans.
Oui.
Voilà, mais c'est tout ce qui tout y est, c'est le temps d'incertitude aussi, la crise économique qui est là, qui est à leur porte, et puis un père qui est au chômage mais qui ne veut pas le dire. Voilà, Louis Garrel et Camille Cotin font un couple français moyen assez réussi.
Je trouve que ça marche très bien,
les deux.
Ils sont
très bons, oui. Voilà, c'est réussi, c'est crédible. Le petit, donc, j'ai dit Simon Boublil, qui est touchant, qui est drôle, touchant. Et voilà, tout s'imbrique assez bien. Et ça, c'est peut-être la marque de fabrique de Toledano et Nakache, c'est que ça s'imbrique bien. Et c'est un puzzle qui se retrouve. Et ça, c'est important. C'est drôle, parfois, émouvant, sans trop de temps mort. Voilà, une fois de plus, après Intouchable et Le Sens de la Fête, ils ont réussi à la fois une comédie et un portrait d'époque. Moi, j'ai assez aimé. Voilà.
Oui, on va rappeler juste, pour situer, c'est qu'ils ont quand même 20 ans de carrière. Ils ont commencé avec Je préfère qu'on reste amis en 2005, enchaîné Nos jours heureux, qui a été la comédie qui les a vraiment propulsés, tellement proches, Intouchable, qui a eu l'énorme succès qu'on connaît.
Oui, c'était un très gros succès.
Samba, Le Sens de la Fête, Hors Normes, Une année difficile. Donc c'est vrai qu'ils ont une constance qui est assez impressionnante et arrivent à maintenir...
Ils arrivent à travailler ensemble, ce qui est rare dans le cinéma, deux metteurs en scène ensemble.
Ah bah, vous avez au côté américain, vous avez les frères Cohen qui sont grands. Mais c'est vrai que c'est assez rare. Marie-Noël.
Alors, comme la corde au cou dans son genre, c'est un film vintage, qui soigne la reconstitution d'époque jusque dans les détails très précis. Bon, c'est sympathique. Moi, je suis moins enthousiaste que Dominique, mais parce que je trouve ça un peu, justement, superficiel, jolie reconstitution. C'est très agréable à suivre et bien joué. Le couple des parents m'a paru, mais pourquoi pas, c'est un parti pris stylistique, un peu BD, un peu dessiné, alors que le jeune garçon, Vincent, le jeune Simon Boublil, qui est vraiment, en effet, j'apprends, J'approuve complètement Dominique là-dessus. C'est un acteur délicieux. Et lui, il existe bien. Il est très plein humainement. Il a une saveur à la fois d'enfance et de préadolescence. Il est à la fois en pleine ébullition et puis plein de rêves, d'interrogations. C'est vraiment un très... C'est lui qui m'a vraiment accroché au film.
Mais alors, ce que vous reprochez peut-être au couple parents, c'est peut-être d'être un peu dans des archétypes.
Pas des archétypes, plutôt des stéréotypes. Le gardien, Pierre Lotin,
Pierre Lotin, mais il joue vraiment quelque chose, un peu de repère.
Registre. Donc, c'est bien. Il n'y a pas de reproche à faire. Juste, c'est plutôt sympathique, mais ça reste un peu superficiel, facile, disons. Agréable et facile.
Ah oui, non, mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de... Ils ont un équilibre à trouver, comme vous disiez, ils essayent toujours un peu d'osciller entre, on va dire, la comédie sociale, un peu le drame, l'émotion. Là, on est en plus une base de comédie aussi un petit peu romantique. On découvre les... ça n'a pas été la partie que j'ai trouvée là. C'est juste un regard très personnel dessus. Donc, ce qui fait que moi, j'ai trouvé que j'aimais beaucoup, par exemple, le couple. Alors, à contrario, le couple Garrel-Cotin, je trouvais qu'il marchait beaucoup et j'aurais aimé qu'il pousse un peu le truc beaucoup plus loin, qu'il y aille peut-être encore plus. Mais c'est vrai que ils sont toujours un peu.
Ils sont dessinés à la ligne claire, vraiment.
Parfois, on aimerait un peu plus de transgression en allant un peu plus loin. Dans une comédie, comme on en parlait, comme pouvait le faire par exemple Broca avec Le Magnifique. Il met une telle ampleur dans son propos que ça devient, on est à la limite du grotesque.
C'est pas le même travail. Broca, il était dans la fantaisie, mais la fantaisie inspirée. Eux, c'est pas vraiment à la fantaisie inspirée. Non. C'est une réalité qu'ils arrivent à décaler comme ça, mais c'est peut-être plus difficile ce qu'ils font. Oui. Mais c'est peut-être plus difficile, justement. Ça dit, je ne suis pas admiratif, c'est loin de tout. Il y en a que j'ai moins aimé dans leur filmographie. Mais depuis Intouchables, c'est vrai qu'ils sont devenus intouchables eux-mêmes. Parce qu'ils font partie des...
Mais alors, c'est une des grandes particularités et des réussites de leur cinéma, c'est qu'ils arrivent à faire quand même coexister énormément d'acteurs et qu'ils sont toujours assez bons. Et ils se renouvellent. Enfin, Le Sens de la Fête était vraiment un exemple là-dessus. Mais c'est des artisans du film choral, ils sont vraiment très bons là-dedans. Et alors, je dois dire, finir le film sur la musique de François de Roubaix, Dernier Domicile Connu.
À la fin, j'ai reconnu. C'est vraiment un maître de la musique. Vous savez qu'il est mort en plombée sous-marine.
Oui.
C'est-à-dire que cet homme qui faisait de la musique est mort dans le monde du silence. Il y a un paradoxe dans sa vie qui est assez troublant. Il a fait beaucoup de musique de film. Melville pour Le Samouraï.
En plus, c'est drôle parce que le film se passe dans les années 80, mais la musique, elle date, c'est 72.
Dernier Domicile
Connu de Giovanni.
L'un des meilleurs Giovanni, d'ailleurs.
Oui. Ah oui, et qui montre justement tout le Paris qui se change, se métamorphose, les grands immeubles, les anciens quartiers qui disparaissent. Ça, on pourrait y parler pendant des heures. Et à autre chose sur la corde au cou à souligner, c'est que la bande-son aussi reprend énormément de très bons standards des années 70.
De l'époque, oui. Ouais. Là aussi, ils ont pris beaucoup de standards.
Eh bien, écoutez, on a parlé de ces deux films. On va parler maintenant... Alors, ça, c'est... je vais vous laisser la parole à vous, Marina et Dominique, parce que je n'ai pas eu, malheureusement, le temps de le voir. Mais il s'agit du film « Plus fort que moi », qui est sorti le 1er avril dernier avec l'acteur Robert Aramayo et qui est un film sur le syndrome de Gilles de la Tourette. Et c'est un film anglais, si c'est...
Anglais.
Alors, dites-nous, Marina.
Oui, anglais, c'est important à préciser parce qu'il a vraiment les qualités du cinéma anglais. Le sens du drame social, mêlé à beaucoup d'humour, à une justesse... dans la représentation psychologique des personnages, et puis une excellente écriture, une narration épatante qu'on suit, qui est à la fois limpide et très fournie, et puis des comédiens, ça c'est un bonheur, toujours les acteurs anglais, ils sont sensationnels, et donc Robert...
Aramayo. Attendez, je vais vérifier. Oui, c'est ça, Aramayo.
Qui joue la le personnage principal inspiré d'un personnage réel, d'un Écossais.
Qui s'appelle John Davidson, c'est l'histoire vraie, effectivement, qui a atteint de...
atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Et donc, on suit son parcours de vie, de maladie, de découverte, de... parce qu'au départ, personne ne connaît ça dans son entourage, en Écosse, une petite famille très... très moyenne, très classe moyenne.
Oui, et parce que ça se passe dans les années 80, il faut préciser. Et donc, à l'époque, la maladie n'est pas du tout connue.
Non, pas du tout connue. Et donc, elle se caractérise par une espèce de désinhibition qui peut aller jusqu'au... Tout le monde ne le fait pas, mais jusqu'aux jurons, aux grossièretés.
Oui, c'est l'image qu'on a un peu, nous.
Mais c'est pas le...
C'est pas que ça, évidemment.
Pas que ça, mais des tics, beaucoup de tics, etc. Et donc, un comportement incompréhensible et surtout fort répréhensible dans une famille anglaise décente. Donc, c'est immédiatement marqué, dès ses premiers symptômes, ses parents cherchent à le punir. À l'école, pareil, le directeur, les professeurs interviennent. On croit à une espèce de provocation, de grossièreté, etc. Donc, il souffre énormément de ce rejet. Et jusqu'à ce qu'une infirmière psychiatrique, mère d'un de ses amis, ne comprenne de quoi il retourne et que c'est pathologique et pas du tout une révolte, une fronde. Et donc tout progresse à partir de là, parce qu'à partir du moment où il se sent compris lui-même, il commence à découvrir son propre territoire. Et comment, avec l'aide de quelques-uns, il peut entrer et aménager sa propre vie. Et ça, c'est formidablement raconté.
Dominique, c'est quelqu'un qui souffre et qui fait souffrir les autres. Mmh. C'est ça le rapport avec la maladie. Pour la petite histoire, c'est vrai qu'André Malraux avait cette maladie-là. Gilles de la Tourette, alors ça n'allait pas jusqu'à les grossièretés, mais il grimaçait, il hurlait, etc. Même avec je me souviens d'une interview avec Roger Stéphane qui pouvait être passionnant, c'est un concours de grimaces, ce qui fait que le propos était balayé par une sorte de
vignole
comme ça, c'est terrible.
Alors, il y a cette dimension, il y a plein de dimensions dans le film, c'est ça qui le rend très intéressant. L'apparence et la réalité profonde, il y a le pathologique et comment comprendre et accepter des personnes qui ne sont pas du tout dans votre univers et qui sont inadaptés sociaux. Toutes sortes de réflexions possibles, tout en étant une comédie pleine d'humour, de tendresse,
Oui, c'est vrai, c'est vraiment le type de comédie un peu à la Ken Loach.
Il y a du Ken Loach, il y a du...
au grand maître de la comédie sociale.
Oui, il y a du Ken Loach, il y a du Stephen Frears, si on veut. Et ça, les Anglais maîtrisent ça formidablement. Qui fait qu'on a un plaisir constant à voir ce film qui est riche, varié, agréable et en plus vraiment intéressant et profond.
Eh bien écoutez, chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Allez voir le film.
Allez voir le film, allez voir Justine Usion et puis si vous avez envie de vous replonger dans les années 70 à Indianapolis, regardez La Corde au Cou. Et donc ça vous fait déjà trois films. Compléter, c'est un film de Kirk Jones. Le film.
Et l'acteur a obtenu le BAFTA, le meilleur acteur au nez et à la barbe de Leonardo DiCaprio et de Timothée Chalamet.
Oui, qui sont quand même de certaines pointures. Alors, nous allons maintenant aborder maintenant le cœur de notre émission. En évoquant la figure de Jean-Paul Rapneau. Et avant de commencer par son premier film, j'aimerais vous poser une question. Quel est votre premier souvenir d'un film de Jean-Paul Rapneau ? Dominique.
C'est son premier film.
La vie de château.
La vie de château. La vie de château qui reste virtuose, qui porte d'ailleurs en lui toutes les qualités de ses autres films. C'est-à-dire pas de temps mort, une virtuosité, une rapidité dans l'action. Et surtout, le film avait l'originalité à l'époque, je crois, ça on peut le vérifier, d'être le premier film qui parlait de l'occupation avec le ton d'une comédie.
Oui, parce que La Grande Vadrouille n'était pas encore sortie. C'était, sorti, bien, après,
c'était
oui.
bien après. Non, ça, et il a eu le prix Louis de Luc d'ailleurs pour ça. Ça reste pour moi l'un des meilleurs rapnos, ça avec Cyrano. Hein. Mmh. Mais c'est mon premier souvenir. Alors, comme je l'ai en DVD, je l'ai revu quelques fois. Ça tient très bien la route. Et alors il y a un détail. Alors moi qui m'avait frappé, c'est que Noiret qui joue le mari de Catherine Deneuve, un mari qui menace d'être trompé à tous les coups, à un moment va chercher son vieux fusil. Or ce vieux fusil, on le retrouve bien après dans le film de Robert Enrico, où là aussi. Dans un beaucoup plus dramatique, il va chercher son vieux fusil pour descendre les Allemands. Est-ce qu'il y a eu un clin d'œil au film de Rapneau ? Je ne sais pas, mais dans les deux cas, il y a un vieux fusil, en tout cas.
Marie-Noël ?
Moi aussi, c'est La Vie de Château, que j'ai trouvé extrêmement séduisant et qui le reste.
En noir et blanc, il faut dire, mais avec le charme du noir et blanc.
Le charme du noir et blanc, je crois que c'était une question de budget à l'époque.
C'était ça.
Oui. Pour filmer en couleur. Eh bien, écoutez, nous allons écouter justement la musique de La Vie de Château composée par le grand, l'illustre Michel Legrand. Alors, il s'agissait donc de la musique de La Vie de Château, composée par Michel Legrand. La Vie de Château qui est sortie donc en 1966, c'est le premier film de Jean-Paul Rapneau. Jean-Paul Rapneau, alors avant, avait été scénariste, il a aidé notamment sur L'Homme de Rio de Broca, il avait été assistant réalisateur.
Il a même été acteur.
Oui.
Enfin, il a fait de la figuration dans deux films de Louis Malle.
Oui, exactement.
Ascenseur pour l'échafaud et les amants, oui. On le reconnaît déjà fauve à l'époque, dans une très courte scène.
Oui, Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle. Il va aussi aider d'ailleurs sur un autre film de Louis Malle qui est Vie privée. Il va aider à écrire
C'est un homme de cinéma. Il a trempé dans le milieu du cinéma, un peu comme Sautet. C'est le même chose qui a fait beaucoup de scénarios, qui a raccommodé des scénarios, etc.
Ah oui,
il a un peu le même. C'est un homme de cinéma dans le cinéma.
Ils s'entendaient très bien d'ailleurs, les deux.
Oui, sans doute. Mais c'est la même démarche un peu, je crois.
Oui,
d'ailleurs, dans le livre, on est plongé directement, c'est un des charmes de ces mémoires, on est plongé dans ce monde du cinéma, des scénaristes, des producteurs, tout ça s'agence, s'agite, se mêle, discute, c'est formidable l'écriture de scénario, on voit intervenir Alain Cavalier au départ, qui le pousse, c'est lui qui le pousse vraiment vers le cinéma. Et donc Louis Malle, en effet, Claude Sautet, Daniel Boulanger, bientôt Jean-Claude Carrière. Enfin, tout ça, On fait des bribes. Maurice Clavel, à un moment.
Oui, alors c'est très surprenant, Maurice. Vu comme prof de philo, et je ne pensais pas qu'il savait qu'il avait participé au Don Juan avec Fernandel.
Oui.
C'est surprenant. Mais je ne savais pas du tout qu'il avait fait dans Les Mariés de l'an 2. Il est arrivé après. Hein.
Certains passent, on leur demande un coup d'œil, et puis il en reste quelque chose, et Rapneau intègre ça.
C'est une constante dans sa filmographie, qui va toujours demander énormément d'aide.
Dans les scénarios, il les a fait avec d'autres, d'ailleurs.
Exactement.
Ah, mais c'est étonnant, non. Il écoute tout le temps, sans cesse, les critiques, les interrogations, mais est-ce que ça fonctionne? Non, là, lui me dit que ça ne fonctionne pas. Si, lui, il me disait... Dans toutes les observations, on a l'impression qu'il les absorbe, qu'il les intègre avec à la fois une grande intelligence et une grande humilité. Il n'est pas là à revendiquer son œuvre. Ça, c'est très étonnant et passionnant.
Alors, il m'a un peu rappelé Pinotto, que tu connaissais aussi, qui était comme ça.
Le charmant
Pinotto. Qui avait la même
Pinotto.
Humilité par rapport à son métier, qui ne se considérait pas comme un grand metteur en scène, mais qui a fait du cinéma grâce à Ino Ventura, son premier film, Le Silencieux. Hein.
C'est vrai.
Et qui avait un frère, en plus, Jacques Pinotto, qui avait travaillé avec Darry Cole, qui était plus connu que lui au début, puis qui après est devenu moins connu, mais il était très... Claude Pinotto était très, très humble par rapport à son métier.
Alors, Rapneau, il est à la fois très humble, modeste, prêt à tout, mais aussi très ambitieux. Ce paradoxe est intéressant chez lui.
Oui, alors, juste en plus pour le situer, alors très rapidement, il est né donc à Auxerre, il monte à Paris pour vivre du cinéma. Son père désapprouve totalement et d'ailleurs ne verra jamais son premier film, puisque je crois qu'il meurt avant, et ça sera aussi une grande douleur. Cette figure du père, on va la retrouver finalement aussi beaucoup dans ses films, voire dans son dernier film. Et donc, il commence avec La vie de château qui raconte, en fait, on suit Catherine Deneuve, qui joue Marie, une jeune femme qui ne rêve que de Paris. Elle est coincée dans un château en Normandie. Alors, ils l'ont tourné, je crois, c'était à Gambet, dans les Yvelines. Mais elle est coincée dans ce château avec un mari joué par Philippe Noiret, qui est assez dans un style très Noiret, c'est-à-dire...
Oui, à l'époque, oui. Voilà,
oui.
Il a beaucoup joué les maris un peu...
Un peu, oui, c'est ça, très nonchalant, on va dire, voilà. Et le film démarre, on ne devine finalement que nous sommes en guerre qu'à partir d'un certain temps, c'est pas du tout... montré comme ça dès le départ du film, Marie-Noël.
Oui, c'est ça qui est très original et astucieux. Les choses surgissent progressivement. On découvre comme si le champ s'élargissait et qu'on passait d'un plan serré à un plan large.
Oui, et c'est Alain Cavalier qui dit, quand ils échappent, ils sont en train de décrire justement ce... Il dit, pendant un long moment, on ne savait pas que c'est la guerre, on croirait à une histoire d'amour adultère, et soudain, un tank passe derrière la haie. Dominique, c'est un premier film, mais c'est déjà un film qui démontre
une maîtrise
vraiment totale.
Une science des détails aussi, qui est très importante dans sa façon de filmer. Je crois que ça commence dans une cave où il y a des pommes.
Oui, c'est ça, c'est l'histoire de pommes, de pommes volées même.
Des pommes volées, etc. Et puis le couple Noiret de Neuve, qui est paradoxal a priori, puisqu'elle n'a pas l'air d'être mariée à un homme comme ça. Mais non, c'est assez... c'est Henri Garcin qui joue presque les jeunes premiers, mais qui n'a pas fait une carrière... très, très, très étonnante, mais enfin qui...
On a Pierre Brasseur
qui
est exceptionnel.
Après, oui. Et Marie Marquet, je crois aussi. Non, il y a toute une galerie de personnages assez, assez juste, assez bien dessinée. Il y a vraiment La vie de château. On est dans La vie de château. Puis on peut faire le rapprochement avec Milou en mai, en 68, finalement. Ça, c'était 68 à la marge, quoi. Ben là, c'est un petit peu la guerre de 40 à la marge, quoi, un peu.
Oui, et donc Rapneau pensait déjà... Alors, Catherine Deneuve n'était pas le premier choix, puisqu'il pensait à sa sœur, à Françoise d'Orléac, et qu'après, et finalement, ça a été Catherine Deneuve. Marie-Noël, La vie de château, film historique mêlant à la fois l'intime dans l'histoire, est-ce que ça va être la marque de fabrique, une des marques de fabrique de Rapneau, cette faculté à, à parler de petites histoires, mais dans la grande.
À amplifier les choses, oui. Il a une vision très large, qui est peu courante dans le cinéma français, qui est vraiment une ampleur plus pratiquée dans le cinéma américain. Il vise grand, loin, large. Il veut des moyens, du coup. Il a un côté, un goût pour la superproduction, d'emblée.
Oui, c'est ça.
Et en même temps, en effet, pour l'intime, les rapports. Donc, il faut les deux. Il a cette richesse de palette qui fait qu'il...
Il a besoin d'un univers bousculé. Là, c'est la... C'est l'occupation, après ça va être la révolution.
Oui, préfère-t-on qu'apprendre des périodes historiques.
Il a besoin d'un
univers qui bouge. Il insiste, c'est ça, il insiste beaucoup dans ses intrigues à la notion d'urgence. Il faut que toujours il y ait une sorte de tempo.
D'urgence et de désordre. Parce que le désordre, c'est son univers finalement, puisqu'il fait toujours courir ses interprètes. Il faut voir, dans tous les films, il court. C'est ce qui donne un rythme au film, mais en même temps, les personnages sont toujours poursuivis ou par eux-mêmes ou par autre chose, quoi. Il y a toujours l'idée d'une course éperdue, quoi.
Alors, je crois que ça n'avait pas été facile de trouver des producteurs, parce que traiter sous cet angle, justement, l'occupation, c'était, vous l'avez dit, c'était assez novateur pour l'époque.
Pour l'époque, oui.
Alors, on va passer maintenant, alors, voilà, donc 66, La vie de château, et après, en 71... arrive donc le film Les Mariés de l'an 2 dont vous avez parlé et dont nous allons écouter là aussi le thème, un des thèmes de Michel Legrand.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Voilà, c'était un des thèmes composés par Michel Legrand pour ce film, alors sorti en 71, alors qui raconte l'histoire de Nicolas Philibert, un Français exilé en Amérique, qui s'enrichit, s'apprête à épouser une riche héritière. Alors avant cela, il doit divorcer de sa femme, Charlotte, qui elle est en France, et donc il part la retrouver. Mais le petit problème historique, c'est que la France est en pleine révolution. Alors, Marie-Noël, sur les Mariés de l'an 2, qui est un film, comment le qualifier ?
Une farandole incroyable à travers l'histoire, en effet, où on change de bord, de camp, on passe des royalistes aux républicains, tout ça. Et tout ça avec un couple complètement virevoltant.
Interprété par Marlène Jobert et Jean-Paul
Belmondo.
Bah, c'est un petit peu le guignolo sous la Révolution. Il y a un peu cette idée-là. Bon, en revoyant le film, ça m'a frappé parce qu'il faut bien esquier, si Belmondo pouvait être un comédien d'exception, il a aussi beaucoup cabotiné dans ses films. Bon, là.
C'est un peu un reproche que lui fait d'ailleurs Rapneau et qui trouvait qu'il n'allait pas assez parfois dans, dans, un peu dans l'émotion, il restait toujours un peu dans ce côté très démonstratif, très cascade.
C'est pour ça qu'il n'en aurait pas voulu pour Cyrano de Bergerac.
Oui, exactement.
Parce qu'il ne voulait ni souffrir, ni être amoureux.
Voilà,
qu'il garde une image très...
Pour la petite histoire, enfin, qui concerne le cinéma de loin, c'est là qu'il a rencontré Laurent Tonelli,
oui,
qui allait devenir son ami, alors qu'il était encore avec Ursula Andress.
Voilà, qui joue la sœur de Samy Frey.
La sœur de Samy Frey. Samy Frey, ou dans le générique, il y a une faute d'orthographe, d'ailleurs.
Oui, et qui est restée, d'ailleurs, non ?
Elle est restée.
Et Samy Frey, d'ailleurs, n'était pas du tout enclin à aller sur ce type de film. Il venait du cinéma d'auteur.
On le sent. C'est drôle, parce que quand on voit le film, comme je l'ai revu très récemment, je me suis dit que Samy Frey était tellement plus séduisant que Belmondo. Quand on le voit,
il a une allure.
Mais ce n'était pas son rôle. Il n'a jamais voulu être une vedette, vraiment, Samy Frey.
Il y a toujours ce côté mystérieux chez Samy Frey.
Oui, ce côté mystérieux, très charmeur, une voix extraordinaire, une présence aussi.
Ah oui. Et donc, alors, Les Mariés dans deux, il y a, pareil, alors là aussi, une distribution pléthorique. On a même Jean-Pierre Marielle à la voix off.
Oui, il y a la voix de...
Il y a la voix de Jean-Pierre Marielle au début. Et puis c'est donc il y a Marlène Jobert, on a Laura Antonelli, Julien Guillaumard qui est dans un rôle en républicain forcené absolument génial. Marie-Noël, oui.
Alors là c'est un tournage épique, extrêmement difficile, et c'est là qu'on voit que Rapneau, qui est quand même encore presque débutant. Il est affolé lui-même par tout ce qui lui tombe sur les épaules.
Il tourne entre la
Roumanie.
Entre la France et la Roumanie.
Oui. Et c'est c'est énorme. Il ne s'attendait pas à ça.
Non, ça a été très compliqué. Oui.
Très, très difficile. Des choses de superproduction, que ce soit les décors, les accessoires.
Les scènes de bataille, notamment.
À maîtriser avec énormément de figurants. Et puis, tout à coup, les difficultés des uns, les caprices des autres, les humeurs des troisièmes, les producteurs qui disent on ne va pas voir le bout, l'argent, etc. Tout ça lui tombe sur les épaules. Et c'est beaucoup trop. Et pourtant, il arrive, il a aussi une bonne étoile. On se dit, ce jeune homme...
Oui, il y a vraiment une bonne étoile parce que, notamment en Roumanie, il doit réduire ses temps de tournage, donc il doit retourner une partie en France. Enfin,
Il
est au bord de partir plusieurs fois.
C'est passionnant d'ailleurs à lire, parce qu'on voit vraiment les dessous du cinéma. C'est quand même un art...
De la débrouille.
Mais oui. Parce que de pièces et de morceaux, il faut faire avec les uns les autres ce qu'on a, ce qu'on croit qu'on peut avoir et qu'on n'aura pas, c'est des choses invraisemblables. Et ça, c'est quand même impressionnant toujours dans le cinéma.
Et d'ailleurs, ce qui est frappant en lisant donc Vive Allure, c'est que le doute est son quotidien.
Oui.
Il est toujours.
Est-ce qu'on va y arriver ? Or tout suggère que non.
Exactement. Cependant, il va y arriver. Alors, à signaler aussi le petit rôle de Patrick Devers qu'on voit.
Oui, on le voit on le remarque. Quelques minutes, même pas une minute. Oui.
Rapneau aurait aimé beaucoup le faire tourner plus tard.
C'était avant les valseuses, c'était avant tout ça.
Oui, en soldat français. Mmh.
Et alors, comment être à la fois perfectionniste comme il l'est, avec un sens de la vision, de là où il veut aller dans son œuvre? Et puis en même temps, adaptable à tous les bricolages, à tous et en refaire, comment refaire une voile avec toutes ces voilures déchirées, ou qui se déchirent, ou ces vents qui soufflent, etc. Et ça, c'est le mystère du cinéma, et c'est la marque vraiment d'un grand cinéaste, hein, quand même, qui tient debout.
Exactement. Et alors en plus, c'est des courses-poursuites échevelées, ça n'arrête pas. La scène dans le château des royalistes où ils se courent après, presque dans du vaudeville, mais les acteurs doivent dire leur réplique en courant, enfin rien ne s'arrête, ça va à 200 à l'heure. Et ce qui frappe effectivement en revoyant le film, c'est l'ambition. Il n'a peur de rien en fait dans ce film.
Mais oui.
C'est une des remarques que vous m'avez faites au téléphone, Dominique Bord, c'est que c'est un cinéaste de la foule, Rapneau.
Oui, il manie les foules. Il arrive à diriger les foules. Et toujours dans le rythme, toujours dans la virtuosité, dans la vivacité. Parce que c'est ça, ce qu'il caractérise, c'est ça, dans tous ses films à peu près. Sauf peut-être dans le dernier un peu moins. Mais c'est cette façon de manier les foules. Et que...
On ne s'y perd jamais dans la foule. C'est
non,
ça aussi.
On ne s'y perd jamais, il arrive à s'y retrouver. Ce n'est pas courant dans le cinéma français, finalement.
Non. Il aime les figurants, il y a toujours beaucoup de figurants. Alors, dans Les Mariés de l'an 2, évidemment, et puis après, on verra après pour même Tout feu, tout flamme, ou Cyrano, enfin Cyrano, évidemment, Le Hussard. Mais ouais, c'est, Cyrano, voilà,
C'était chaque metteur en scène a un film apothéose. Je crois que Cyrano, ça a été son apothéose.
Ah ben, nous allons en parler.
On en parlera tout à l'heure.
Voilà, nous allons en parler longuement. On va passer. Alors, donc là, pour resituer, il réalise deux films historiques et le troisième.
Voilà, il part vers la. Il revient en contemporain.
Il revient en contemporain, mais il ne revient pas en France.
Non. Il y a Caracas, je crois, au Venezuela.
Voilà. Ouais. C'est Le Sauvage. Le Sauvage, alors, Le Sauvage de Rapneau. Alors, il va. Là, c'est. C'est avec Yves Montand, il retrouve Catherine Deneuve, et donc c'est Marie-Noël, on reprend un peu le postulat de départ d'une comédie un peu à l'américaine, entre deux antagonistes que tout oppose, elle un peu la Catherine Deneuve qui joue cette fille frivole avec je sais pas comment on pourrait expliquer, des mafieux italiens aux trousses, quoi. Elle doit se marier, elle refuse, et donc là d'un coup c'est la course poursuite. Et Montand qui joue une espèce d'exilé, on va deviner après pourquoi, mais qui n'aspire qu'à la vie sauvage sur son île avec sa maison. Seul mes peinards, exactement. Marie-Noël.
Oui, bien sûr, c'est fondé sur ce duo complètement antagoniste à tous égards, y compris dans le rythme, dans le tempo. Et là encore, c'est un travail d'écriture très long, très sensible, qui tient compte à la fois des lieux, des sentiments, des situations, des comportements, enfin, tout un mélange qui se fait en venant de quantité d'intervenants, là encore, qui disent oui ceci ou cela, c'est une indication. Et chaque fois, Rapneau retient quelque chose ou ça lui permet de rejeter quelque chose. On lui dit par exemple que ça ne tient pas debout, il faut quand même savoir pourquoi il est là, lui, sur cette île. Etc. Donc, il n'y a pas assez d'arrière-plan, alors il travaille l'arrière-plan, etc.
D'ailleurs, le film est un modèle de construction, parce que l'île en question, dans le tournage, en fait, n'est pas du tout...
Pas
du tout une île. Alors, ils font tout un subterfuge pour donner l'illusion de la jungle, alors qu'en fait, c'est un sentier qui fait 15 mètres de long et qui arpente... Enfin, il y a tout un travail, et ça, Rapneau, ça a aussi une de ses grandes caractéristiques, c'est qu'il va... il est capable de créer un univers...
Des petits lieux séparés ou des petits bouts de choses.
Me rappelle un peu l'impossible Monsieur Bébé entre Cary Grant et.
Alors il est très.
Dire l'emmerdeuse et puis le type.
Il est très hawksien, Rapneau. Il aime beaucoup la comédie de Hawks.
Oui.
Notamment dans le tempo des dialogues. C'est que c'était Howard Hawks qui voulait toujours raccourcir, resserrer, et que ça aille vite, que ça tombe bien.
Ce qui est drôle, c'est qu'il avait pensé à beaucoup d'autres acteurs avant Montand.
Ah oui, à la liste, oui, alors ça avait noté.
D'ailleurs, Montand s'en est vexé.
Mais oui, s'en est vexé.
Montand a toujours été vexé.
Surtout,
Tout feu, tout flamme aussi, pour d'autres choses. Mais là, oui, effectivement. Alors,
il y avait Elliot Gould, il y avait Depardieu, il y a eu Paul Newman, Marlon Brando, rien que ça, Jack Nicholson. Et Belmondo et Lino Ventura. Et Belmondo voulait imposer Laura Antonelli. Il était avec elle, et c'est comme ça qu'il n'a pas pris Belmondo, et que finalement il est arrivé sur...
Il y a eu Alain Delon aussi. Alain Delon a dit, vous me voyez en train de monter aux arbres, enfin de...
Et de cuire du poisson.
Ah oui, c'est fou le nombre d'inter... Alors bien sûr, quand c'est arrivé sur Montand, il était un peu vexé.
Il est un peu vexé. Et en plus, il s'est vexé aussi pendant le tournage parce qu'il avait l'impression qu'il n'y en avait que pour Catherine Deneuve. Il était, voilà,
il était assez insupportable. Hein.
Ouais. C'est insusceptible.
Alors, c'est assez amusant parce que dans le livre, dans sa biographie, j'ai envie de vous lire le passage où il fait lire son scénario à Claude Sautet. Alors, c'est assez drôle parce que, comme quoi, hein, okay. Je donne le scénario à lire à Claude Sautet, nous sommes maintenant très amis, il ne m'épargne pas. Lourdeur répétitive, comédie explicative à l'américaine, parfois le personnage de Martin fait artificiel, pas de scène entre les deux personnages principaux, frustration. Il fait des remarques dans la marge, choquant, ou bien on s'en fout. Bref, il n'aime pas du tout. Sauf le début en ville, les poursuites de voiture, ça il adore. Nous ne sommes pas d'accord, le début est ce que j'aime le moins et ce qui vieillira le plus. C'est amusant quoi, de voir que Sautet qui
était plus sévère.
Oui, Sautet était très sévère, mais bon, question de goût. Mais Rapneau a tenu quand même à aller dans cette direction. Un film qui commence effectivement à Caracas et puis qui après se déporte.
Une histoire des cuisinières aussi, c'est ça. Et la cuisinière qui.
Oui, cette fameuse cuisinière.
La fameuse cuisinière.
Ouais. Cuisinière que Rapneau repère et que et elle va devenir. Enfin, il y a des histoires incroyables. La porte tournante de l'hôtel. Ils l'ont construite en France, ils l'ont fait venir là-bas pour la reconstruire. Enfin, il y a une. Rien n'est trop beau chez Rapneau pour aller au bout du processus cinématographique, Marie-Noël.
Oui. Oui, c'est exactement ça. Et vraiment, il peut prendre une pièce ici, un morceau là, et en faire une unité. Alors que c'est complètement de briques et de broc. Et il crée une véritable unité, à la fois dramatique, visuelle, sonore, tout un univers. Ça, c'est...
Alors là, il retrouve pour la troisième fois Michel Legrand à la musique. Et alors, ça se passera un peu moins bien parce qu'il aura eu le sentiment à la fin que Michel Legrand, étant aussi sur un autre film, le saura plus tard, il laisse un peu... Il bâcle un peu sa musique. Et donc, les deux hommes ne collaboreront plus tard. Voilà, ça sera là. Malheureusement, alors que bon, c'est vrai que Michel Legrand, quand on pense à la musique de Michel Legrand, elle s'adapte parfaitement à celle de Jean-Paul Rapneau. Eh bien, abordons maintenant son film suivant, qui est un film un peu plus, on va dire, qui sort dans les années 80. Je ne dis pas de bêtises, exactement, qui sort début 82.
Tout feu, tout flamme.
Tout feu, tout flamme. Alors Dominique, ce film, comment vous le situez un peu? Est-ce que...
Je le situe mal, c'est pas mon préféré, même si... Alors il avait dit avoir été influencé par Le Roi Lear, les rapports du père et de la fille.
C'est vrai.
Voilà, alors c'est ça qui est un petit peu surprenant. Il y a Adjani, là c'est nouveau, il y a Alain Souffon, qui a peu tourné, mais qui a un rôle là, et puis Montand qui là va être beaucoup plus docile, je crois, beaucoup plus gentil. Il lui avait dit d'ailleurs à la fin du précédent tournage, je lui ai dit, le prochain film je serai beaucoup plus coopératif. Donc ça fonctionne comme ça, mais il y a moins d'ampleur que dans les précédents films. C'est plus un vaudeville finalement, contemporain. C'est pas le film qui marque le plus dans sa filmographie, je crois.
Mais écoutez, je vous propose, alors avant qu'on rebondisse à nouveau sur ce film, peut-être d'écouter justement le thème du film, composé cette fois par Michel Berger.
Thank you.
Voilà, c'était la musique de Tout Feu, Tout Flamme, composée par Michel Berger. Alors le synopsis, le point de départ du film, c'est Victor Valence, qui est joué par Yves Montand, qui est un homme d'affaires, mais aux affaires un peu louches, voilà, qui a quitté Paris depuis plusieurs années, laissant derrière lui sa mère et ses trois filles pour réaliser de sombres opérations de casino aux Bahamas et au Canada. Sa fille aînée, Pauline, qui est jouée par Isabelle Adjani, polytechnicienne, brillante, très froide, et qui est un peu à rebours du tempérament très chaleureux de son père, elle gère toute la famille. Et puis un jour, le père revient. Quand on écoute la musique de Dominique, c'est un film, quand on voit, on sent quand même une certaine mélancolie dans ce film.
Oui, il y a quelque chose de plus romantique, mélancolique. Ce qui est assez curieux, c'est que Adjani l'a dit bien après, Rapneau lui avait dit de s'inspirer de Marie-France Garraud pour son personnage. Marie-France Garraud, qui était, oui, ça paraît bizarre, qui a été l'une des femmes de la Ve République,
en fait.
Maîtresse femme intelligente, et qui a beaucoup fait, qui a fabriqué Chirac, il faut le dire, avec Pierre Vuillet. C'était les deux qui cornaquaient Chirac, donc c'est une femme d'autorité, une femme qui connaissait bien la politique. Donc ça c'est curieux, mais elle l'a dit bien après, donc ça explique peut-être un peu son personnage, un peu raide, un peu fermé, comme ça. Il y a quelque chose de romantique et de nostalgie, mais il y a peut-être la nostalgie qui commence à s'installer, parce que Rapteau commence à vieillir aussi, il regarde peut-être les jeunes femmes d'une autre manière, quoi. Il y a cette manière-là aussi.
C'est Adjani qui vient le voir d'ailleurs pour le film.
Oui.
C'est elle qui dit « je veux tourner une comédie et je veux surtout sortir du rôle de possession qui me colle au basque, entre guillemets. Et donc, je veux une comédie. » Et donc, le duo... Alors, Marie-Noël, comment vous le situez justement, ce Tout Feu, Tout Flamme, ce duo de père-fille qui est assez rare finalement
Oui, parce qu'elle, c'est une intellectuelle extrêmement rationnelle et régulière. Et ce qui plaisait à Adjani, c'est un côté beaucoup plus carré qu'elle n'avait joué.
La scène, d'ailleurs, le film démarre sur le défilé, sur le 14 juillet, des polytechniciens, et on voit,
voit
Pauline marcher d'un pas martial.
Et avec un père qu'elle découvre, alors lui, complètement un escroc bohème.
Mais charmeur,
amoral, oui.
Montant fait totalement du montant, et d'ailleurs même trop, et Rapneau le dit, d'ailleurs, c'est assez très intéressant, c'est qu'il a laissé Montant faire un peu ce qu'il voulait en termes de jeu. Et à tel point que...
Oui, c'est peut-être un peu déséquilibré. Ce n'est pas en effet le meilleur Rapneau, même si le rapport des personnages est intéressant.
Oui, et puis il y a toujours
original.
Des sous-rôles intéressants. Je pense à Jean-Luc Bidault qui est là, Alain Souchon, effectivement.
Alain Souchon, qui a peu tourné, mais qui pouvait être bon. Dans L'été meurtrier, était très bon.
Oui.
Et L'homme aux yeux d'argent, je crois qu'il n'a pas fait beaucoup de films. Oui.
Mais dans celui-là, il est plutôt bon. Enfin, alors pareil, on parlait de cette faculté de montage, Marie-Noël, c'est que le casino, alors que la propriété enviée, qui se situe dans le film au bord d'un lac, tout ça, en réalité, était une maison à Saint-Cloud. C'est qu'il a fait... Tout dans le montage donne l'illusion que la propriété est au bord du lac, alors que pas du tout. C'est absolument brillant.
Oui, il a vraiment une vision synthétique tout à fait extraordinaire et synesthésique de tous les sens, de toutes les perceptions.
Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose sur Tout Feu, Tout Flamme ?
Non.
Alors,
je crois.
Il est peut-être temps de parler
du monument. Il a mis 8 ans.
Il met beaucoup de temps entre chaque
film.
Mais c'est intéressant, en lisant ses mémoires, de voir que ce temps, en effet, n'est pas inemployé.
Il tourne beaucoup de publicité.
D'une part, mais surtout, il a des quantités de projets qui il remue. Et finalement, ça prend forme... on ne sait pourquoi, quelquefois,
des
années après,
pas,
il y a des choses... Il y a plein de choses qui ne se font pas, mais qui servent à ce qui se fera. Il l'explique bien. Et ça, c'est très intéressant de voir tout ce travail créateur.
Oui, ce travail de mille feuilles superposées des couches et des couches
c'est
de réflexion.
C'est pourquoi son cinéma est tout sauf superficiel. Ce sont des comédies, ça peut paraître léger, ça l'est. Il y a du rythme, du tempo, mais ça n'est pas superficiel, jamais. Et pourquoi ? Parce que c'est nourri par cette vaste culture et cette vaste exigence de rigoureuse de... Que ce soit bien fait, que ça aboutisse, que ça ne...
C'est exactement ça. Et alors, pour nous lancer un peu dans ce Cyrano, qui sera peut-être, qui est considéré comme son plus grand film...
Avec le Hussard.
Avec le Hussard. Justement, le Hussard qui a aussi eu... des avis contrastés sur le Hussard. On y reviendra, notamment sur le rôle de... d'Olivier Martinez, mais écoutons le thème de Cyrano, composé par Jean-Claude Petit. Magnifique thème d'ouverture de Cyrano, composé par Jean-Claude Petit. Film, alors, c'est... Alors, par quel bout l'aborder ? C'est vrai que c'est un film un peu monde, un peu...
L'ouverture est faramineuse. L'ouverture dans l'hôtel de Bourgogne, c'est une grande réussite. Dès l'ouverture, on est dans le film. Ça, c'est très réussi. Puis Depardieu, bien sûr.
Et alors, justement, si on repense à l'ouverture du film, ça a été aussi Là, je pense qu'on peut vraiment parler de génie de Rapneau, c'est de faire voir l'ouverture par les yeux d'un enfant qui va découvrir un peu ce spectacle et qui est absolument fabuleux. Un film, alors, Dominique, il y a eu un énorme travail d'écriture, de réécriture par rapport à la pièce de Rostand.
Oui, Carrière a réécrit 100 strophes, je crois, en s'inspirant du style des Alexandrins de Rostand. Il en a réécrit, ils ont supprimé certains morceaux, il en a réécrit d'autres. C'est le talent de Carrière, ça aussi. Donc on a arrangé un peu les fausses pour en faire un produit cinématographique. Vous savez, il faut voir que le personnage de Cyrano, dans les années 60, avait été très marqué par la télévision, avec Daniel Sorano, qui l'avait joué à la télé. Après, il y en a eu d'autres. Moi, j'ai vu Belmondo, sur scène, vous voyez, qui ne m'a pas enthousiasmé. Moi, peut-être un soir où il n'était pas en forme, mais je ne l'ai pas trouvé aussi...
Étincelant
que pouvait l'être Depardieu. Depardieu, et il faut bien le dire. Aujourd'hui, ça fait... c'est mal vu d'en dire du bien, mais c'est un comédien extraordinaire. Il est extraordinaire. Et là vraiment, pour moi, pour chaque metteur en scène, il y a un film qui voilà, c'est Cyrano de Bergerac qui restera sans doute son meilleur film et le plus grand, le plus ambitieux et le plus réussi, je crois.
Et alors, revenons justement au choix de Depardieu. Marie-Noël, c'est que vous l'avez un peu dit, c'est que la production, au départ, voulait Belmondo. C'est Rapneau qui a insisté.
Oui, Belmondo, il l'a dit, Rapneau, donc ne voulait ni être amoureux, ni souffrir, ni être souffrant, vulnérable. Donc, c'était vraiment même pas la peine de penser à lui pour Cyrano, bien sûr. Et donc, il a tenu, oui, c'était pas du tout un rôle pour Belmondo. Et heureusement, Depardieu est génial, vraiment.
Ah, Depardieu est incroyable. Oui. Et puis alors, parlons aussi des autres rôles, parce que c'est
oui, il y a Anne Brochet qui a disparu aujourd'hui, qui joue Roxane, oui.
Oui, une très belle Roxane.
Il y a Jacques Weber. Qu'y a-t-il d'autre encore
Mais Anne Brochet n'était d'ailleurs pas le premier choix, hein, parce que je crois qu'il avait proposé, si ma mémoire est bonne, Rapneau avait proposé le rôle à Jenny.
À Jenny, oui.
Oui, et qui ne pouvait pas. Ça a été, je crois que c'est, on lui a parlé d'Anne Brochet au conservatoire en disant viens la voir, et là ça a été un peu le coup de foudre. Elle est absolument formidable en Roxane.
Oui. Mm-hmm.
Il y a Jacques Weber qui joue le comte de Guiche, alors assez drôle, puisque lui-même a joué Cyrano.
Il y a Vincent Pérez aussi.
Vincent Pérez qui joue Christian, Roland Bertin qui joue Ragno, Sandrine Kiberlin qu'on voit un petit peu.
Voilà. Ouais, un petit peu.
Oui, qui a un petit rôle. C'est un film, là aussi, Marie-Noël, des scènes de foule, des scènes de bataille, oui. Des scènes de duel. Mm-hmm. On a l'impression que là, c'est la quintessence même du film de KPDP.
Oui, et puis avec tout à coup ces petites mélodies extrêmement discrètes, secrètes, de l'amour impossible, de la nostalgie, des mélodies extrêmement ténues, mais d'un lyrisme merveilleux, vraiment, mais qu'il faut entendre comme un instrument très, très fin, très sensible, comme un cor anglais au milieu d'une symphonie de Mahler.
C'est là tout le... Et là, on sent d'ailleurs, comme on avait vu dans Tout feu, tout flamme, la mélancolie de Rapneau s'engouffre dans ce personnage de Cyrano qui est... Oui. Totalement...
La fin est
absolument bouleversante. Ouais.
Ouais, ouais.
La fin sur le panache qu'il a donné.
C'est la grande faculté de Depardieu, c'est d'arriver à moduler sa voix.
Il peut parcourir vraiment tous les registres avec une justesse, une authenticité vraiment exceptionnelle.
Eh bien, je vous propose justement de l'écouter, de voir un peu à quel point, justement, il module et à quel point c'est un bonheur. C'est la fameuse tirade du non-merci que nous allons écouter.
Ça, tu conviendras.
Eh bien oui, c'est mon vice. Déplaire est mon plaisir, j'aime qu'on me haïsse.
Si tu laissais un peu ton âme, mousquetaire, la fortune et la gloire...
Mais que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron? Et comme un lierre obscur qui circonvient à un tronc et s'en fait un tuteur en lui laissant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non, merci. Plaidier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon, dans l'espoir vil de voir, aux lèvres d'un ministre, naître un sourire enfin, qui ne soit pas sinistre. Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite, à l'endroit des genoux, devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale. Non, merci. De trouver du talent comme Mazette, être terrorisé par de vagues casettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure, François !» Non, merci, calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter. Non, merci. Non, merci. Non, merci.
Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers pour un oui, pour un non, se battre ou faire un verre. Travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense. Dans la lune, triomphant par hasard, en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul. Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul.
Fais tout haut l'orgueilleux et la mère, mais tout bas, dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas.
ce film, dont 12 Césars, je crois.
Oui, 12 Césars. C'est absolument prodigieux. Quelle scène où là on voit vraiment toute l'ampleur de un grand texte et un très grand interprète, Marie-Noël.
Oui.
Alors justement, j'essaie de retrouver le passage. C'est qu'il y a eu toute une question sur le vers, justement.
Oui, alors il y a un passage de mémoire, si vous permettez, je vais vous me couper si c'est trop long, mais ça mérite d'être lu parce que Rapneau s'adresse à son équipe. Et c'est vraiment, il dit, il les unit.
Son début de tournage, oui. Justement. C'est une lettre qu'il va adresser à son équipe en début de tournage.
Qu'il dit, prononce pour son équipe et qu'il les unit, vraiment, qu'il les réunit dans sa vision et dans sa conception du film, et notamment ce passage du théâtre au cinéma.
Alors allez-y, Marie-Noël.
Ce film, puisqu'il s'agit bien d'un film, aura une particularité. Les personnages s'y exprimeront en vers. Oui, le film parlera en vers. Cela a longtemps fait peur à beaucoup de gens. Bien des producteurs qui étaient tentés par le projet ont fini par abandonner. Voilà, mais un jour, je passe un peu. Un jour, un homme a accepté. Cet homme, c'est René Kleckmann, notre producteur, qui était un homme remarquable. Ça, c'est une parenthèse de moi. L'un autre homme s'est joint à lui, Michel Sédoux. Ils se sont battus pour que ce projet existe. Ils continuent à se battre. Je voudrais rendre hommage à leur foi, à leur ténacité. Voilà pour le côté des producteurs. Aujourd'hui, tous les films se ressemblent. Nous sommes ensevelis par des torrents d'images et de sons identiques. Vous voyez deux plans d'un film, vous entendez deux phrases de dialogue et déjà, vous avez compris la suite. Il ne vous reste qu'à changer de chaîne ou à sortir de la salle. Aujourd'hui, vous le savez, seuls les films qui sortent de l'ordinaire peuvent capter l'attention du public. Cyrano de Bergerac ne ressemblera à aucun autre film. Nous pensons que ces merveilleux dialogues en vers, ces brusques envolées, ces alexandrins coupés en deux ou trois ou quatre et même cinq, ce ping-pong acrobatique et vertigineux, nous pensons, nous, qu'ils seront la clé du succès du film. Ce qui est apparu à beaucoup de producteurs frileux comme un problème, un obstacle, nous voulons en faire l'arme avec laquelle nous allons triompher. Alors ces vers, qu'allons-nous en faire? Comment allons-nous procéder avec ces alexandrins baladeurs, bien loin de ceux de Racine et de Corneille, mais descendant direct de ceux des drames romantiques de Victor Hugo? Je ne suis pas un professeur d'art dramatique, je n'ai pas de théorie, je n'ai pas de règles, et d'ailleurs il n'en existe aucune d'infaillible qui puisse répondre à tous les cas de figure. La seule chose que j'ai, c'est une oreille, et je lui fais assez confiance. Des comédiens et des comédiennes que je ne citerai pas et qu'évidemment je n'ai pas engagés m'ont dit après avoir lu le scénario « Il n'y a aucun problème, c'est comme de la prose. » Si nous disions ce texte comme de la prose, si nous rendions les vers trop quotidiens, nous aplatirions tout et le charme brusquement s'envolerait. La poésie française est basée sur le nombre de pieds et le nombre ici, c'est 12. Mais si nous tombions dans l'excès inverse, si nous faisions un sort à chaque vers, à chaque rime, à chaque césure, si nous martelions systématiquement ces fameux 12 pieds, le film n'y résisterait pas, il s'effondrerait, assassiné par le système métrique. J'ai dit à l'instant que je n'avais pas de règles, mais je peux quand même en formuler une qui est presque une lapalissade. Si on entend trop les vers, cela n'ira pas. Mais si on ne les entend pas assez, cela n'ira pas non plus.
Exceptionnelle lettre, effectivement, qu'a adressée Rapneau, qui est une véritable profession de foi sur le film, et qui montre à quel point, justement, le film arrive à trouver cet équilibre entre, effectivement, entre un vers trop soutenu, qu'on entendrait comme une sorte de rengaine qui, à un moment, lasserait, et un vers qui disparaîtrait au profit de respiration, on sortirait, on irait vraiment dans le domaine de la prose. Et d'ailleurs, alors je me permets justement toujours un peu dans cette technique du vers, c'est le ce qui a aussi déclenché, notamment chez Depardieu, c'est raconté juste après, cette capacité vraiment à alors. Depardieu, il faut le savoir, était à l'école de Jean-Laurent Cochet. Donc Jean-Laurent Cochet, grand, illustre professeur de théâtre et qui a avec un enseignement basé sur les fables de La Fontaine, qui a eu aussi Lucchini comme élève, et un apprentissage du vers qui est extrêmement riche et extrêmement technique et qui est très très bon. Et justement, au début de la préparation, Jean-Marie Willing, qui joue le poète ivrogne, commence à dire des vers et Rapneau dit cette chose. Il nous parle en alexandrin et pourtant n'y fait même pas attention. Il reste la beauté. Voilà. Et Depardieu confiera après à Rapneau que ce que tu as dit de Willing m'est resté gravé dans la tête. C'est là que j'ai pu m'emparer du texte. Dominique Borde, est-ce que la récit de ce film tient aussi grâce à ces vers, justement?
Oui, parce que c'est Carrière qui avait réécrit ces vers, et puis le théâtre de Rostand, oui, ça se joue toujours. Moi, j'avais vu même une version avec Toretton au théâtre, qui jouait dans un asile de fous. Eh bien, ça passait très bien. C'est-à-dire qu'on peut le mettre à toutes les sauces, Rostand, et Cyrano en particulier. Plus que Fanclaire. Mais donc, non, ça c'est vraiment une grande réussite, mais ça tient aussi à Depardieu. Bon, moi, j'ai un faible pour l'acteur, parce qu'il est tout de même extraordinaire. C'est le gamin des années 2000, vraiment, qui peut tout jouer, quoi. Donc, beaucoup de récompenses. Il y a une trentaine de récompenses, 12 Césars. Bon, il est tout de même récompensé au niveau de son talent, je crois, ce film. Hein.
Ah oui, c'était un film qui a marqué son époque. C'est un événement, oui. Et c'est amusant d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il y a un peu un parallèle parfois entre Broca et Rapneau.
Oui, et en fait, une des grandes amitiés, et des amis ennemis, qui sont...
Ils se sont répondus parfois un peu dans les films, et moi, quand j'ai revu Cyrano, je pensais aussi au bossu de Broca. Qui est aussi très, très, très réussi.
Il avait voulu reprendre le film d'une belle, qui critiquait beaucoup, d'ailleurs, de Broca. Il en avait fait autrefois. C'était inspiré vraiment du roman.
Oui, le roman de Paul Féval. Alors, on va passer. Il nous reste 10 minutes. 10 minutes pour aborder deux films, mais surtout, peut-être, son avant-dernier, qui, je crois, vous aimez beaucoup, Marie-Noël. C'est l'adaptation du chef-d'œuvre de Giono, Le Hussard sur le Toit, sorti en 1995 avec Olivier Martinez, Juliette Binoche, et qui a été à l'époque l'un des films les plus chers du cinéma français.
Oui, 26 millions d'euros.
26 millions d'euros, ce qui est une somme très très considérable pour l'époque, pour une production. Alors, ce film, Marie-Noël, on est toujours dans le côté cap et d'épée, mais...
Oui. Il y songe depuis toujours presque, ce film-là. Enfin, ce film. Le roman de Giono l'a accompagné, et comme je le comprends, je partage entièrement cette passion, cet amour pour le roman de Giono, qui est une merveille absolue, le personnage du hussard. Et donc, il a depuis très, très, très longtemps l'envie de l'adapter, puis il y avait des questions de droit, et puis d'autres projets, et puis toutes sortes de raisons qui ont fait que c'est resté comme... Mais c'est un peu la basse continue de son grand orchestre.
Et là aussi, un gros travail de réécriture, parce que le roman de Giono est conséquent, et donc là aussi, beaucoup, Dominique, beaucoup de... un fort travail de réécriture pour pouvoir adapter ce roman au cinéma.
Oui, bah c'est Jean-Claude Carrière et Nina Companès qui ont fait l'adaptation.
Oui, il a fait appel à Nina Companès.
Oui, c'est Nina Companès. C'est la seule fois qu'elle a travaillé avec lui. Alors moi, j'en ai un souvenir lointain, je dois dire. On avait retenu Juliette Binoche et Olivier Martinez, qui sont connus à ce moment-là. Et c'était tourné dans 27 lieux différents. Donc il y avait toujours cette idée de changement, de bouger tout le temps aussi.
Oui, c'est ça. C'est...
Dans le film. Et puis de faire, comme il le dit, j'ai de nouveau le désir de faire un film sur la France des taillis dans une période troublée. Un nouveau périple qui pourrait commencer à Manosque, des escarmouches, des soldats dragons.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, dans la filmographie de Rapneau, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de nature, ouais. Beaucoup de haies, c'est ça. Il y a un côté l'influence de sa jeunesse, et notamment de cette maison familiale, où il le raconte avec ses figures familiales. Le hussard sur le toit, comment vous le jugez-vous ? Est-ce que c'est un très grand film ? Est-ce que il a été assez critiqué, notamment, alors, et Rapneau en parle, sur l'interprétation
de Martinez.
Mmh. Marie-Noël.
Oui, qui est peut-être un peu pâle, un peu trop...
Un peu falot. Ouais.
Oui. Mais ça se discute parce que ce qu'il y a de beau dans le personnage du hussard, c'est qu'il se tient et se retient sans cesse. Il ne cherche pas à plaire, à se montrer. Au contraire, il retourne toujours les choses vers l'intériorité. Et donc, on peut justifier d'une certaine façon cette façade plutôt calme que sans éclat.
Oui, non, j'ai pas trouvé que c'était c'est ce côté parfois peut-être un peu naïf, un peu brut comme ça, ça s'accorde bien à son personnage. Donc c'était a posteriori,
oui.
On pourrait.
Il y a un flegme, il y a une tenue qui fait que c'est pas un personnage qui s'affiche. Mais malgré tout
ça. Ça n'a pas ouvert une carrière extraordinaire à Olivier Martinez.
Non, c'est certain.
Mais lui, le dit d'ailleurs lui-même, Rapneau, c'est son autobiographie, que lorsqu'il y a eu un peu le casting, il y avait quand même un souci sur la voix de Martinez. Mmh. Et puis ils étaient trop embarqués dans le film pour pouvoir de toute façon faire demi-tour ou autre, enfin changer d'acteur. C'est un film aussi, elle a là aussi, chez Rapneau, beaucoup de second rôle, Dominique.
Oui, il y a beaucoup de second rôle.
De grands.
Je ne sais pas s'il a toujours porté bonheur aux acteurs qu'il a fait débuter. On va voir ça pour le prochain avec Durangère, qui n'a pas une carrière non plus. Il a pris des vedettes. Quand il a pris des vedettes, justement, comme Belmondo, tout ça, ça marchait. Mais quand il prend des acteurs plus débutants, ça ne leur porte pas vraiment chance. Il y a quelque chose qui ne se passe pas.
Oui, pourtant, alors justement, vous en parlez, c'est très bien, on va faire une transition parce que c'est effectivement le temps coule.
Oui, le temps coule.
Le temps file. 5 minutes, et je parlais de 2 films, mais non, en fait, il en reste 3 puisqu'il y a Bon Voyage. Elle est là aussi. Alors, il retrouve Depardieu qu'on voit dans le hussard.
Oui,
on le retrouve.
Il le retrouve.
Il retrouve dans Bon Voyage. Et alors, Bon Voyage, c'est l'histoire de Paris. Toujours là, une fuite, la débâcle, 40, on quitte Paris vers Bordeaux, le gouvernement est à Bordeaux, il y a des scènes de foule à n'en plus finir, et l'histoire d'un écrivain, mais qui pour l'instant n'a qu'un manuscrit, qui est fou, amoureux d'une actrice, mais qui le traite comme une marionnette, et qui pour elle va... endosse la responsabilité d'un crime qu'il n'a pas commis, s'échappe de prison, puis là c'est toute une aventure. Comment vous le jugez, vous, ce film, justement, avec cet interprète principal, justement, et qui, moi, je trouve, est plutôt bon, d'ailleurs, dans le film.
Non, Grégory de Rangère, qui n'a pas fait carrière après. Il a tourné, mais ça ne l'a pas fait démarrer dans une carrière. Il y avait Adjani, tout de même, il retrouve Adjani, et puis, bien sûr, Depardieu. Il faut dire que le scénario est de Modiano, mais il retrouve une période troublée. Bon, c'est ce qui lui va le mieux, parce qu'au fond, c'est ce moment de désordre dans lequel il évolue volontiers, quoi. Il retrouve encore ça. Mais ça n'a pas l'ampleur des précédents. On sent déjà un peu la fatigue, quoi, d'une certaine manière.
C'est vrai. Il manque un peu cette ampleur. Parce que c'est quand même une traversée de la France. C'est l'exode. C'est tout un... Et on ne sent pas toujours ça. Donc, il y a des scènes réussies, mais... plus du côté de l'intimité que de...
C'est intéressant ce que vous dites, c'est qu'aussi passer de Cyrano, du hussard, à Bon Voyage, on a ces images en tête, et alors forcément...
Ça descend.
Descend, en tout cas, le film a quand même de la tenue encore aujourd'hui.
Mais c'est plus la même ampleur.
C'est plus effectivement la même ampleur, le même peut-être, le même brio que ces deux précédents films. Alors, il nous reste 3 minutes, j'en profite pour lire 2 messages d'auditeurs. Alors, le premier, C'est... Alors, je ne sais... Bon, je n'ai pas malheureusement de nom, mais en tout cas, c'est bonjour. Revoir Cyrano suffit à mesurer la profondeur de la chute actuelle. Une tentative de regarder le Milady récent s'arrête après 5 minutes de dialogue de prétendus mousquetaires congés, plus crasseux que des charbonniers de Combaya qui viennent comme un os dans le pâté. Bref, d'une nullité bien contemporaine, minable. Mmh. C'est vrai qu'on pourra parler un jour de la descente aux enfers du film, du cinéma de KPDP.
Ah oui,
parce que.
Il y a eu des modes.
Il y a eu des modes, mais en tout cas, ça, c'est revenu aujourd'hui. Mais malheureusement, ça revient. Les Trois Mousquetaires, le Milady, là, c'est quand même pas... Même le Comte de Monte Cristo.
Le Comte de Monte Cristo.
Ouais, oui.
Mais c'est une autre chose. Hein.
Voilà. Il manque le souffle, le mouvement, le...
Ah oui, là,
l'entrain, le... quelque chose qui emporte, en effet, le panache, quoi, tout simplement.
Ouais, des belles... Je pensais au Hussard. Le Hussard, il y a des chevauchées qui sont fantastiques.
Oui.
Il y a des vraies galopades.
Et ça appartenait aussi à une génération, le film de KPDP. C'est comme le péplum. Le péplum a appartenu à une génération, c'est mort maintenant. Les péplums venus d'Italie, il y en a une collection incroyable.
Mais ça pourrait revenir, mais c'est comme le film de ça, on pourrait le film de KPDP, c'est un peu notre western à nous aussi.
Oui.
Il faut aussi le remettre un peu au goût
du
jour.
Mais il y a eu des adaptations. Regardez la nouvelle version d'Amphélie, qui était catastrophique d'ailleurs.
Ah oui, avec Gérard Lanvin.
Ça a pas marché du tout. Lanvin n'était pas le pire.
Et alors, un autre message, ça aussi. Chers amis du cinéma, ai-je le droit de ne pas être d'accord avec vous? Cyrano, son chef-d'œuvre, mais pour moi, Depardieu est une erreur de casting, ce qui n'enlève rien à son talent, il est trop vulgaire. Le meilleur Cyrano fut toujours Daniel Sorano, mais je dois être le seul à penser à ça.
On revient à Sorano toujours.
Alors après, là, c'est peut-être une question de génération.
Oui.
Voilà.
Je ne dirais pas vulgaire.
Non,
je pense qu'il peut être, qu'on peut dire peut-être trivial, mais il y a de la trivialité chez Cyrano, mais vulgaire, non.
On va parler, alors il nous reste une minute, le temps peut-être d'évoquer son dernier film, Belle Famille, qui est une sorte d'un film aussi un peu testament aussi sur son amour des maisons familiales, parce qu'il y a beaucoup de maisons aussi chez Rapneau, de grandes maisons.
Oui, les maisons c'est important.
Les maisons c'est très important pour lui, un film alors qu'il a eu du mal à construire en termes de budget, donc en fait il se rend compte que finalement il est peut-être aussi entre guillemets, un peu passé de mode, quoi. Il n'a plus les financements auxquels il aspire. Et un film aussi, La Chorale, Dominique.
Oui, c'est encore un film chorale. Et là, il joue avec des comédiens qu'il n'avait jamais employés avant. Hein. Mathieu Amalric, Nicole Garcia, Marine Vac, qui est une débutante qu'on a revue après. Et puis Gilles Lelouf, qui a été meilleur de film en film. Je dois reconnaître que Lelouf, moi, il m'a étonné. Quand il avait joué le père d'Esquerou, par exemple, où il était plutôt bon. Non, là, c'est un vaudeville grave, un petit peu.
Eh bien, écoutez, c'est le moment de nous séparer. je suis désolé, Dominique, je vous coupe un peu l'herbe sous le pied. Marie-Noël, merci. Le temps
merci
est fil. Dominique, merci, un grand merci. On se retrouve dans un mois. En attendant, allez au cinéma, regardez des Rapneaux et regardez du bon film. Allez, je vous laisse. À dans un mois. Merci pour tout.
Vous venez d'entendre le Libre Journal du cinéma dirigé par Philippe-Henri Rambaud, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 30 avril 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.